Olivier Lebleu, vous venez de rééditer votre livre Meyer et Schirlitz, Les meilleurs ennemis, coécrit avec votre confrère Robert Kalbach. Merci de vous présenter.
Oui, alors bonjour. Oui, il s'agit d'une version révisée en fait. Hein. Le livre est sorti pour la première fois il y a 20 ans déjà, pour le 60e anniversaire. Et aujourd'hui, nous fêtons le 80e anniversaire de la libération de La Rochelle. Et j'ai eu l'occasion effectivement de procéder à quelques petits changements, quelques petites modifications. Malheureusement, Robert Kalbach n'est plus de ce monde. Mais j'ai eu l'occasion avec l'éditeur La Geste de ressortir ce livre, ouais, avec quelques corrections.
En livre de poche, hein, avec en même temps exceptionnellement une nouvelle version américaine. Qu'est-ce que la poche de La Rochelle et quelle est la situation militaire à cette période ?
Alors, on parle de la poche de La Rochelle. D'abord dire que ce n'est pas la seule poche de la côte atlantique. En fait, il y a 12 villes et villes portuaires, évidemment, qui, après le débarquement de juin 1944, sont restés jusque en mai 45 sous la botte de l'occupant. Alors pour des raisons diverses et variées, mais en général c'est parce que c'était un port et donc ça offrait un intérêt particulier pour les forces d'occupation allemandes. Pour La Rochelle, évidemment, c'était en raison de la base sous-marine de la Palice. Et donc à partir de septembre à mai, de septembre 44 à mai 45, on parle de la poche de La Rochelle. On parle bien sûr pas seulement de la ville, mais de son agglomération, disons, autour à 15 km alentour. Et voilà, tout l'enjeu va être de gérer cette partie où les Allemands se cramponnent et essayer de faire en sorte qu'on limite les dégâts vis-à-vis d'une capitulation qui commence à se profiler très clairement.
Alors, comme le dit très bien votre livre, Meyer avait donc comme fonction...
Alors, Meyer était un capitaine de frégate.
Voilà. Et Schirlitz ?
Schirlitz était un vice-amiral allemand. Et Meyer avait été missionné par De Gaulle pour travailler à une sorte de pacification, mais qui ne devait pas être définitive. Pour De Gaulle, c'était très important de récupérer les territoires français par des forces françaises. D'un point de vue stratégique, militaire, politique, c'était très important pour la suite des opérations aussi. Et donc, il y a une rencontre, je précède peut-être votre question, il y a une rencontre entre De Gaulle et Meyer en septembre 1944 à Saintes. Et à ce moment-là, le général De Gaulle encadre très précisément l'action de Meyer en disant qu'il encourage, favorise ce rapprochement avec les autorités allemandes pour essayer de trouver une forme de statu quo qui permettrait de geler les combats. Mais dans l'esprit de Gaulle, c'est très clair qu'il s'agit de temporiser. Il ne s'agit pas de créer un armistice en avant. Il s'agit de gagner du temps, parce que pour l'instant, les forces françaises ne sont pas assez nombreuses pour reprendre la poche de La Rochelle.
Alors en quoi étaient-ils les meilleurs ennemis ? Expliquez-nous.
Parce qu'il me semble que deux hommes qui, dans un conflit qui est encore très dangereux, on le verra avec le bombardement à deux reprises de la ville de Royan, en janvier et en avril 1945, on voit bien qu'on est loin encore de la fin de la guerre, et bien dans ce contexte encore très périlleux, ces deux hommes qui sont des ennemis, puisque chacun va travailler pour son propre pays et ne jamais trahir ses engagements personnels, nationaux. Mais néanmoins, ils vont avoir l'intelligence d'essayer de voir au-delà de la guerre, même jusqu'à une réconciliation et une paix européenne. Ils vont réussir à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'autres dégâts, à la fois évidemment civils, humains et matériels.
Selon vous, quelle a été la clé des négociations entre eux ?
La clé, c'est plusieurs points communs qu'ils partageaient. D'abord, ce sont tous les deux des marins, c'est important. Il y a un code d'honneur particulier à la marine, en tout cas dans les textes, si vous voulez. Dans l'esprit, ce n'est pas toujours été le cas, malheureusement. Mais normalement, lorsqu'un marin, quelle que soit sa nationalité, tombe à l'eau, on lui lance une bouée. Ça, c'est le premier point. Il y a un certain nombre de code d'honneur, de valeur, Deuxièmement, ce sont tous les deux des protestants. Et la question religieuse, la question des valeurs humaines est importante pour ces deux hommes. Il y a un troisième point qui est le fait, et ce sera crucial dans leur relation, qu'ils vont connaître, ils ont connu ou ils vont connaître tous les deux la perte d'un enfant ou de plusieurs. Et cette question sur l'empathie va être très importante. Et quatrièmement, mais ça c'est un point qui à ce jour reste difficile à expliquer, du moins à savoir si l'un et l'autre en étaient informés, mais en tout cas, quand Meyer rencontre Sherlitz, c'est un orphelin de père qui rencontre un orphelin de mère. Mmh. Et moi, il me semble qu'il y a une sorte d'emboîtement psychologique là qui fait que ces deux hommes vont pouvoir trouver un intérêt à échanger ensemble, à se respecter et à s'élever l'un l'autre, en fait, je pense.
Et c'est ce que vous racontez dans ce livre.
Oui. Ah. Pour moi, ce sont deux hommes qui deviennent de véritables héros, non pas parce qu'ils ont fait des faits d'armes particuliers, mais parce qu'à un moment donné, ils vont avoir besoin de prendre une décision à partir d'avril 1945, quand la convention d'octobre qu'ils ont signée ensemble, en tout cas pour la représentation française, c'était le colonel Edlin qui est signataire, mais ils vont devoir, à partir du moment où cette convention est résiliée, et que le général de l'Armina, à ce moment-là, souhaite engager des combats avec, sur la région, ces deux hommes n'auront plus d'autre choix que d'engager leur parole d'honneur personnelle pour essayer de maintenir les choses dans le statu quo qui avait été mis en place par la Convention d'octobre. Oui. Et c'est en cela que, pour moi, ils deviennent de véritables héros. C'est des hommes qui s'engagent personnellement au-delà de leur hiérarchie. Et c'est à la fois très impressionnant et très beau. Et je pense qu'on a des leçons à en tirer aujourd'hui.
Oui. Donc le 8 mai 1945, La Rochelle a été libérée. Par la suite, en septembre 1944, le général de Gaulle fait une déclaration à Saintes. Pouvez-vous nous rappeler le contenu de cette déclaration ?
En fait, c'est ce que je vous ai expliqué plus tôt, c'est que il y a cette rencontre entre De Gaulle et Meyer, et De Gaulle définit le cadre de son action. Il faut bien comprendre que De Gaulle avait tout intérêt, je le disais, à défendre et à reprendre des territoires français par des forces françaises, parce que on oublie souvent, mais les relations entre alliés étaient très difficiles. Oui. Ce qui explique en partie le drame du 5 janvier à Royan. Et il faut se souvenir par exemple aussi que De Gaulle a été informé du D-Day, du jour du débarquement, que la veille, mm-hmm. par les alliés américains et anglais. Ça prouve dans quelle considération il tenait De Gaulle. D'autre part, il ne faut jamais se souvenir, et lorsque l'on dit ça, il ne s'agit pas de négliger et de diminuer le sacrifice des GI qui sont venus mourir sur nos côtes normandes. Mais il faut être conscient aussi qu'il y avait un plan qui s'appelait l'AMGOT et qui consistait à prendre possession des territoires français après la libération, que des préfets américains avaient déjà été formés pour prendre la place des anciens préfets français et qu'un dollar européen avait été émis pour pouvoir fonctionner économiquement. Donc, ce que les alliés prenaient pour de l'hystérie chez De Gaulle était, ma foi, des colères et des suspicions absolument fondées. Alors on entend souvent, oui, si les Américains n'étaient pas venus, nous serions allemands. Oui, mais si De Gaulle n'avait pas été là, nous serions américains.
Olivier Le Bleu, vous êtes scénariste, écrivain, et vous vous définissez comme en étant un autostoppeur de l'histoire. Aujourd'hui, diriez-vous qu'elle se répète ?
Oui, je pense que c'est très inquiétant ce qui se passe en ce moment dans le monde. On a des montées au pouvoir de personnalités tout à fait fascisantes. Il ne faut pas avoir peur du mot. Et on le voit, par exemple, le fait d'interdire certains livres aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de rappeler à tout le monde que souvent ça commence, ces mauvaises histoires, par des autodafés de livres. Et on s'attaque à la culture, et on s'attaque à la science, et on s'attaque à la vérité, bien sûr, et on renverse complètement les schémas les faits historiques, et c'est très grave. On dit aussi, bien sûr, que toute personne qui ne connaît pas son histoire est condamnée à la répéter, et je le crois profondément. Donc il faut être conscient de tout ça. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience qui monte à peu près partout. Quand je dis Trump, je m'adresse aussi à Poutine, à Erdogan, enfin voilà, des leaders qui fonctionnent sur le terrorisme et qui ne... Allez, on va être gentil, ils sont à la tête de démocratures qui ont une apparence de démocratie mais qui sont des dictatures. Et ça, c'est évidemment très préoccupant. Et je suis très heureux que cette version américaine...
The Best of Enemies, hein, Saving La Rochelle.
Traduit par Adriana Bonvitz.
Ah oui, c'est important de le préciser, oui.
Qui a fait un travail remarquable. Je suis très heureux que ce livre sorte aux États-Unis. Je pense que c'est une sorte de petit miracle dans le contexte actuel. Mais si ça permet à un maximum de lecteurs anglo-saxons d'avoir accès à ce livre, j'en suis ravi, parce qu'il y a évidemment des leçons à tirer de la rencontre de ces deux hommes. Oui.
Et oui. Donc Meyer and Sherlitz, Saving La Rochelle, qui signifie sauver La Rochelle. Mm-hmm. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut dire que ce pourrait être un livre interdit aux États-Unis ?
J'en serais très fier. Je vais vous dire, ça me remplirait de joie et de fierté, parce que ça voudrait dire que c'est un livre qui dérange... ces dirigeants qui n'ont rien à faire là où ils sont. Ça permettrait peut-être encore plus de faire parler du livre. Oui.
Merci à vous.
Avec plaisir, merci.